Bonjour à tous, bienvenue pour cet événement porté par Passerelle. On est une association d'accueil de personnes en exil à Dulfi. On accueille des personnes déjà depuis quelques temps. On est aussi porteur d'un festival sur les questions de migration qui s'appelle « Les murs ne servent à rien » dont la 7e édition aura lieu à l'automne. C'est un festival de films, de lectures, de conférences, de discussions, d'expositions sur les questions de migration. Où on essaye de fournir des contenus de qualité sur ces questions qui sortent des idées toutes faites et qui sont surtout qui n'ont pas peur du très long cours et de prendre le temps d'expliquer des enjeux et tout en entrant dans la question par différents médiums, d'où l'idée de la photographie, des films, de la littérature, voilà, de croiser différentes façons d'entrer dans un sujet. Avec Passerelle, on est aussi porteur d'un projet de maison accueillante personnes exilées à Dulfi, donc ça avance aussi. Aujourd'hui, on est partenaire donc de Concertina pour la deuxième année, parce que malheureusement la question de l'enfermement, elle fait lien aussi avec nos actions, puisque les personnes exilées subissent plusieurs fois souvent dans leur parcours et même des fois à l'arrivée l'enfermement. On y va. Nous percevons bien que le monde dans lequel nous vivons est plus vaste qu'avant, plus ouvert. Il se pose à l'échelle planétaire des questions qui dénotent un besoin de monde commun. Quel espace et quelle forme de gouvernance voulons-nous pour la planète? Quel droit commun, international ou global, et quelle diplomatie peuvent régir de bonnes relations entre humains et entre États? Quelle solidarité globale peut-on imaginer face aux urgences écologiques et aux inégalités sociales criantes à cette échelle? Telles sont les questions qui émergent dans l'actualité politique, les débats publics et les recherches en sciences sociales. Mais pourtant, ce même monde planétaire est plus que jamais fragmenté, meurtri. Il est rendu de plus en plus inégalitaire par des formes outrées d'exploitation des forces de travail dans un capitalisme sans limite, qui se moque des États et de leurs règlements ou leur impose sa dérégulation. De multiples catastrophes dites naturelles rendent l'existence des personnes les plus démunies encore plus précaire, entraînant toujours plus de déplacements contraints. De leur côté, les États-nations semblent obsédés par le cloisonnement territorial, comme le montre la multiplication des murs et les rhétoriques frileuses du repli sur soi. La parole politique, mais aussi les politiques publiques elles-mêmes, et notamment les politiques sécuritaires, prennent de plus en plus souvent la forme extrême de l'affrontement ami-ennemi, avec les crispations identitaires et les peurs qui l'accompagnent inévitablement. Et qui peuvent provoquer d'autres guerres frontalières en retour. C'est ainsi que l'indésirabilité et la haine gagnent du terrain et réduisent la possibilité d'une vie commune. Cela se vérifie à l'échelle planétaire, dans la géopolitique ou le traitement des migrations internationales, mais tout autant comme un poison funeste en interne, pour ainsi dire, dans les imaginaires et les politiques, aux échelles nationales, voire locales, et même dans les vies individuelles, quand le repli identitaire et l'individualisme finissent par se confondre. L'indésirabilité met en danger celles et ceux qu'elle vise, bien sûr, une introuvable communauté d'indésirables. Mais elle met en danger aussi bien celles et ceux qui la décrètent par leurs actes et leurs politiques, et ainsi s'isolent et s'enferment, oubliant l'universelle incomplétude de tous les humains. Je reviens à cet énoncé de Claude Lévi-Strauss en conclusion d'un rapport pour l'UNESCO en 1952. La question posée étant alors de comprendre et dépasser toutes les formes de racisme au lendemain des années fascistes et de la Seconde Guerre mondiale. L'exclusive fatalité, écrivait-il alors, l'unique tare qui puisse affliger un groupe humain et l'empêcher de réaliser pleinement sa nature, c'est d'être seule.
Solitude. Marque la neige à nouer de silence. À la plage, où soudain il n'est plus de sel, il reconnaît la mer, il rompt la face du rivage et s'évade du vent où s'éprennent des lunes. La nuit vient, elle vient, elle se dresse, torille blanc sur la poitrine que soulève un vent de prophétie. Elle creuse, non un vase de fureur ni d'amour bleu, mais une absence de lumière. Perfection de la défaite, loi du matin, le vent, le solitaire, adjoint la vague, lui redonne en ce calice de son corps une douceur et comme un fils à caresser. Fille de mer, homme du sel, Dieu propice aux fêtes, épousailles qui ne cessent.
La place des peurs dans nos vies individuelles, sociales et politiques s'est accrue. Pour tout le monde, tout va très vite dans le sens d'une rétraction sur soi. Ce qui s'impose de toute évidence, mais qui est déjà là depuis longtemps, c'est l'individualisme comme fait social. Cet oxymore, apparemment une contradiction dans les termes, résonne avec les mots du philosophe Roberto Esposito, selon qui l'immunité au sein des États démocratiques relève d'une pensée dans laquelle les individus se trouvent associés sous la forme de leur dissociation. La promesse des États démocratiques est de garantir la sécurité en même temps que la liberté individuelle, tout en justifiant leur existence par une unité nationale, une même société, qu'ils représentent et gouvernent. Mais ces sociétés sont des assemblages d'individus, voire d'hyper-individus, avec les deux sens de l'individualisme que l'on doit garder en tête. Deux sens apparemment opposés, mais pourtant très proches. D'un côté, la valorisation de soi, autant réflexive, si ce n'est narcissique, que conforme à la norme sociale du capitalisme dit néolibéral, qui pousse à se présenter soi-même comme un produit, en compétition, en concurrence, voire en lutte avec les autres, à produire les CV les plus désirables avant même de penser à exister, avec comme idéal la promotion des success stories individuelles. Et d'un autre côté, la figure de l'abandon, de l'individu nu, sans support social, celui dont personne ne pleurera la disparition ou la mort. C'est aussi une figure de la disparition qu'on retrouve dans l'invisibilisation des migrants précaires, vivant dans des espaces résiduels, campements et autres, ou dans celle des sans-abri, pour qui se mêlent la solitude et l'abandon, et celle de tous les habitants des interstices, terrains vagues, échangeurs, parcs, qui, à l'écart des parcours urbains ordinaires, échappent au regard. Cette invisibilité peut aller jusqu'à leur disparition, sociale, médiatique, voire jusqu'à la mort. Le navire négrier d'autrefois, celui qui traversait l'océan Atlantique pour transporter les hommes, femmes et enfants capturés en Afrique et à vendre à l'arrivée sur les marchés d'esclaves dans les Amériques et les Antilles, a été, selon les mots du poète Édouard Glissant, un gouffre. À la fois parce que de nombreux passagers périssaient en mer, mais aussi parce que la vie d'avant la déportation avait été brutalement interrompue. Et enfin, parce que la traite, le déportement, marquait l'entrée dans un nouveau monde. Gouffre du bateau, la cale, de la mer ténébreuse et de l'inconnu à venir, affronté sans préparation ni défi. D'une part, l'anéantissement. Dans l'expérience du bateau négrier, il y a le tout négatif du monde. Dans la cale sont réduits à néant les langues des transportés, leurs dieux, leurs mœurs, leurs instruments ordinaires, leurs outils, leurs coutumes, leurs relations sociales. Tout disparaît dans une négativité totale. D'autre part, une espèce de résistance inlassable à une néantisation, un appétit inlassable pour tout ce qui peut arriver de nouveau à partir de là. Avec patience et résistance, il leur faudra pour revivre oublier le gouffre d'où ils et elles sont sortis. Aujourd'hui, les morts en migration nous ramène de la manière la plus radicale et pressante vers un autre gouffre, celui des frontières. La question, ce n'est pas la frontière en elle-même, un principe anthropologique et universel qu'on trouve partout dans les espaces vivants, dans la vie sociale ou les relations culturelles. Partout, les frontières existent. Elles sont changeantes et peuvent être franchies, qu'elles soient territoriales, urbaines ou nationales, culturelles, linguistiques, religieuses, de genre, de race ou de classe. La question, c'est le passage de la frontière ou comment, pour certaines femmes et certains hommes, elle devient un gouffre et un enfer, alors que pour d'autres, elle est si peu problématique qu'elle semble disparaître sous leurs pas. En évoquant les frontières territoriales nationales et européennes, je voudrais mettre au jour une problématique de la frontière en général dans le monde contemporain, à la fois accessible en principe, mais violente pour certains. À l'image de la violence du capitalisme dit néolibéral, tout ouvert et sans frontières en apparence, mais sélectivement excluant et brutal. Depuis la fin des années 90, les États européens ont commencé à systématiquement organiser l'étanchéité des frontières européennes extérieures, mais aussi en partie intérieures, entre les États eux-mêmes, comme entre la France et l'Italie ou la France et le Royaume-Uni. Cette période marque le début de politiques intergouvernementales puis européennes, remettant en cause certaines clauses des conventions internationales, comme le droit des personnes à quitter tout pays, y compris le sien, le droit de se présenter à toute frontière sans être refoulé, ou le droit de demander l'asile. Toutes ces politiques, uniquement restrictives, et toujours en l'absence d'une véritable politique européenne des migrations, ont créé le gouffre d'aujourd'hui.
Ils ont passé, princes de mer, ils nous ont acquittés de la secrète baie. Comptons les sables avec l'écume, la terreur, le secret espoir. Splendeur, étincelant miroir, oiseau, oiseau très noir. Horde couchant ou dévale Léo, voilier sanglant, victime sur l'épais navire, criant que l'eau de mer est éternelle, ils emplissaient la mer d'un sillage de mots. Sur sa rive, dérivée, il vit le temps, les splendeurs, les nudités, sur sa face, ce souffle de beauté, défiguré. La femme qui soufflait aux voiles rouges, puis il eut au cœur de l'image de la plaie. Ses cheveux, sur la nuit, sonnent, ce sont des chaînes. Ses mains saignent, ce sont mains de peuple tari. Son corps porte le poids du temps, mêlé au sang. Elle a les yeux rêveurs des morts que l'on oublie. Beauté, beauté. Le monde est là, et c'est dans ton corps bleui. Je t'ai nommé beauté, te commentant ce lourd cri d'aile où tu passes avec les mots qu'entasse en mon brasier l'égal tourment. Je t'ai nommé beauté, vertige. Tu m'élis dans la clarté de tes paroles sur la mer agonisante. Tu pris la vague dans tes doigts, lassant l'écume au ciel. Naufrage de ces mots qui te battaient au flanc, je te nommais beauté. Sur le couchant, beauté, beauté des îles mortes, des bras tendus, leurs mains de palmes calcinées, mains qui nouent le ciel de leurs paumes sans doigts, au linge des cendres, tel soleil qui s'étale à bulles sang très humble sur la mer, et l'homme, l'homme, terre, racine tue, Afrique, île au loin, dans l'affre abandonnée, au banc du monde, avec le sang qu'encombrèrent les nuits, comme d'un coq. Sur l'or du vieux maïs, on voit l'étincelante et très dure agonie.
Plusieurs fois au cours de mes recherches, dans les camps et campements de réfugiés, de populations déplacées ou de migrants en situation irrégulière, je me suis trouvée face à cette évidence qui est aussi une aporie, c'est-à-dire l'aboutissement d'un raisonnement qui ne débouche sur aucune autre explication, mais laisse place à une insatisfaction et un inconfort intellectuel autant qu'éthique. Le tri des populations et des corps, la mise à l'écart, l'encampement durable ou la rétention de certaines personnes créent des espaces à part, dont le point commun est l'indésirabilité de leurs occupants. S'ils et elles sont là, c'est qu'on n'en veut pas ailleurs. Ce sont les effets collatéraux d'une organisation sociale et spatiale qui ne les compte pas.
Je marche quelques mètres sur le chemin avant de m'enfoncer dans les ronces qui bordent le campement. À un point de la forêt, un panneau en bois sur lequel est gravé « Départ » en lettres majuscules signale un parcours de santé. Sous ce panneau, des familles venues du Kurdistan irakien se font réveiller par le bruit de la marche. Quelle ironie! 3 500 kilomètres les séparent de leur ville d'origine. De jeunes hommes, hagards, leurs cheveux du matin ébouriffés, font face aux policiers. Des CRS lancent « Allez, allez, on sort de là !» Des hommes, des femmes et même des gamins d'à peine 10 ans regroupent leurs sacs à dos, les chargent dans les caddies. Certains se fâchent contre les agents, qui leur intiment l'ordre de quitter le campement de fortune. Les policiers secouent les tentes pour s'assurer qu'elles sont vides. Les ouvrent, soulèvent les bâches, quadrillent chaque mètre du bois, en avançant pas à pas. La mécanique de leurs gestes est frappante, industrielle. Plus les policiers ratissent les bosquets, plus un brouhaha commence à se faire entendre. Au milieu d'un des champs qui longe le bois, des hommes qui nous disent venir d'Afghanistan pestent contre la police en anglais. Petit à petit, ils jettent dans un feu improvisé les couettes trempées dont ils ne se serviront plus. Le calme du campement endormi laisse peu à peu place aux cris et aux pleurs. Les visages des exilés sont graves. Un type d'une 20aine d'années se tient debout, planté là, sur le petit chemin boueux où je me trouve, quelques bagages légers tenus dans sa main droite. Si ses cheveux bruns sont en pagaille, sa barbe est droite, lisse et bien peignée. Il passe sa main dedans, interrogateur. Son regard est calme, résigné, malgré la cohue qui remue l'intérieur du bois. À peine a-t-il le temps de remonter la fermeture éclair de son petit sac à dos que les équipes de nettoyage s'approchent de sa tente sans même un regard pour lui. « What's it do ?» s'inquiète le jeune homme en se tournant vers moi. Des branches craquent sous leurs pas. Je me trouve trop loin d'eux pour photographier, alors je prends le téléobjectif qui me rapproche artificiellement de la scène. Tout en appuyant sur le déclencheur, je distingue le couteau que l'un d'eux enfonce nonchalamment dans la toile orange de la tente de celui dont j'apprendrai plus tard qu'il se nomme Akam. Un vieil opinel en bois de 8 cm.
À Calais, ordonné tous les 2 jours, les opérations d'expulsion des campements placent les exilés dans un état perpétuel d'errance, de vigilance, d'alerte et de vulnérabilité. Alors que la grande jungle, véritable ville hors la ville, démantelée en 2016, avait vu naître une forme d'auto-organisation et de routine de survie au quotidien, les expulsions toutes les 48 heures font des exilés les victimes d'un état permanent d'insécurité, avec toutes les conséquences que cela implique sur leur santé physique et mentale. En 2019, l'Organisation mondiale pour la santé constatait que la prévalence de troubles mentaux courants tels que la dépression, l'anxiété et le trouble de stress post-traumatique est généralement plus élevée chez les migrants exposés à l'adversité et chez les réfugiés que parmi les populations d'accueil. Se sentir vulnérable de jour comme de nuit, ne pas pouvoir vraiment dormir ou se nourrir, être dans une situation si instable qu'il est impossible de réfléchir aux événements présents ou à ceux à venir. Être sur le fil du rasoir. Empêcher une forme de stabilité dans la vie quotidienne, c'est empêcher les personnes de se projeter dans un avenir, même proche, et d'imaginer de nouvelles formes de résistance. L'état de survie permanent, c'est le propre de la traque ou de la chasse. Confisquer les tentes, assoiffer, affamer, contrôler, arrêter, détenir.
L'invisibilisation de ces exilés est multiple. Ils sont invisibles administrativement, maintenus par la loi dans une existence floue et ne doivent plus leur survie qu'à leur auto-organisation sur les campements et l'aide des associations épuisées par l'urgence ou des organisations mandatées par l'État aux moyens trop faibles. N'ayant ni papier, ni existence légale, la mise au ban et l'interdiction à ces personnes d'accéder aux piliers que sont la communauté, la légalité et la sécurité sont le résultat de leur clandestinisation par la France. Si les personnes exilées sont devenues au fil du temps les proies de l'État français et des États européens, ce n'est pas parce qu'elles ont commis une infraction. Elles ne sont pas criminalisées, arrêtées ou détenues à cause de ce qu'elles ont ou ont fait par le passé. Ce sont elles, en tant que personnes, qui deviennent l'infraction. Aux yeux de l'État, c'est leur existence même sur le territoire qui devient l'illégalité, car ces personnes ne sont pas vraiment considérées comme partie prenante de la communauté nationale. Les exilés peuvent difficilement accéder à leurs droits et sont souvent dans l'impossibilité de porter devant les tribunaux les injustices dont ils sont victimes. Les gouvernements, qui se succèdent depuis 2016 en France, ne font que peu de cas de leur bien-être, voire du respect de leurs droits fondamentaux. Si cette stratégie de zéro point de fixation et de mise au ban est bien franco-française, il ne faut pas se leurrer sur l'état des frontières européennes et l'incapacité des gouvernements à les gérer autrement que par l'outil coercitif. Aux quatre coins de l'Union, dans plusieurs pays que j'ai traversés pour travailler sur le sujet, c'est bien la police que l'on mobilise en premier lieu face aux émigrés, aux immigrés. La police vient d'abord, la loi ensuite. Depuis 20 ans, Bruxelles tente, tant bien que mal, d'harmoniser les politiques d'accueil des différents pays sans grand succès. La montée visible des nationalismes et de la xénophobie en Europe coupe une nouvelle fois les communautés nationales en deux. La mise au ban se généralise. Il y a nous, Européens, blancs, chantres de la civilisation, et eux, étrangers, sans papier, barbares, peuplant autant de jungles que de frontières, sont fermés. Tout le long de la frontière entre la Hongrie et la Serbie, des policiers et militaires hongrois tirent des barbelés sur des centaines de kilomètres. Le dernier passage, une petite voie ferrée qui relie les villes de Kanjiza en Serbie et Roške en Hongrie, est clôturé en grande pompe par une locomotive sur laquelle ont été fixées une grande barrière et 8 imposants rouleaux de concertina. La concertina n'est pas qu'un simple fil barbelé comme celui dont les agriculteurs se servent pour les enclos à bétail. C'est un fil métallique fait de centaines de lames de rasoir, tout aussi tranchantes les unes que les autres, fabriquées depuis des années par une entreprise espagnole nommée European Security Fencing. Traduction :
clôture de sécurité européenne.
Ces barbelés, reconnaissables entre mille, sont ceux du modèle 22 du constructeur. Des lames de 22 mm espacées de 34 mm. Sur les routes de l'exil, on croise la concertina partout aux portes de l'Europe. José Maria Gomez, le porte-parole de l'entreprise qui fabrique ces barbelés saillants, déclare d'ailleurs au magazine Le Point en 2015 « Le marché se porte bien ». À Calais, des kilomètres de ces lames tranchantes entourent le port. Certaines stations-service et fortifient même l'Eurotunnel. En Espagne, à Ceuta, ces rasoirs laissent des cicatrices indélébiles sur les mains d'adolescents qui tentent chaque jour de monter dans des bateaux à destination du continent.
Les zones de séquestration et de tri d'humains, ZSTH, qu'on connaît sous le nom de Centre de Rétention Administrative, CRA, ont été officiellement mises en place par l'État français à partir de 1981. Il y en a 24 sur le territoire français. Des femmes, des hommes et des enfants ne répondant pas aux critères administratifs y sont séquestrés pour une durée maximale de 3 mois depuis janvier 2019. En 2011, elle avait été fixée à 1 mois et demi. En 1981, elle était de 7 jours. Durant cette période, si la préfecture obtient un laissez-passer consulaire de la part d'un autre pays, ils sont déportés. Dans le cas contraire, à l'issue de la durée maximale de séquestration, parfois avant, ils sont relâchés.
Il fait super froid. Beaucoup de bruit. Difficile de dormir.
C'est pas respecter ma vie privée que d'être enfermée là.
Le mitard, il est tout noir. Il y a un matelas par terre, des toilettes à côté dans la même pièce, des moustiques. Il n'y a pas de fenêtre. Et en plus, il y a une caméra qui te regarde tout le temps au-dessus de toi. Ils m'ont mis dedans quand je suis arrivée, en attendant de faire les papiers. Ils n'ont même pas allumé la lumière.
Ça fait 29 jours que je suis enfermée là. Ici, c'est pire que la prison.
Une fois, je vais monter pour manger et le policier il me dit « La tête de con, pour rien, comme ça. Faudrait un peu de respect. On n'est pas des animaux, nous. On est comme vous. On est tous pareils. »
Ça va pas ici. Je suis venue en France pour étudier. Je veux sortir, être libre.
Ça fait 41 jours que je suis là. Je sors dans 4 jours. C'est la deuxième fois que je suis enfermée en CRA. J'ai jamais fait de mal. J'ai jamais rien volé. Juste, j'ai pas mes papiers, je suis là. Je te jure, si je reviens au CRA une troisième fois, je vais faire le mal. Je m'en fous. Pas question que je revienne. Avec la nouvelle loi, les 3 mois enfermés, 90 jours, je te dis, même les gentils, ils vont devenir fous.
Ici, ils font des grèves de la faim pour sortir. Il y a même des gens qui mangent des morceaux de fer, des piles, des briquets. C'est pas normal. Moi, je fais pas ça. Je travaille pas forcément. Juste, je vis. Ça devrait suffire pour pas être enfermé.
Je suis celle qui refuse de comprendre. Je suis celle qui ne veut pas comprendre et qui implore. Et si j'implore, ne riez pas. Pas de haussement d'épaule, pas de murmure et pas de prétexte, les yeux baissés pour éviter ma voix. Mon émotion n'est pas un chien que je promène, un petit chien-chien que je cajole et promène. Mon émotion est noire et lourde. Elle a le poids de la hache et le tranchant du silex. Et si je prie, c'est sans Dieu. Si je prie, c'est comme quand on dit « je vous en prie ». C'est la vie que je prie. Je vous en prie, la vie. Et je ne sais pas de quoi je la prie, la vie. Je sais que la prière, elle est lourde et noire. Elle viendra. Elle viendra, ma prière. À un moment seulement, s'il vous plaît. Elle viendra. Regarde-moi. Regarde-moi. Ose me regarder en face. Je suis celle qui essaie de ne pas comprendre, de ne pas te comprendre, de ne pas entendre tes raisons. Je hais tes raisons. Je fais silence sur tes raisons. Ah oui. Nous avons marché dans la brume des champs ensemble, dans l'aurore. Dans l'aurore chahutée des villes, ma main dans ta grande main qui me voulait tienne et douce et hardie et neuve et affamée et convaincue, soit. Mais cela ne compte pas. Ne pèse plus. Écoute. Écoute et ose me regarder dans les yeux. Écoute-moi. Mon visage dans ton visage se penche sur la boue écarlate et le cadavre démembré. Tueur, éventreur, tortionnaire, mercenaire, soudard, milicien, égorgeur, combattant, assassin, troupier, bourreau, soldat, violeur, massacreur. Chiennerie de vie en tout genre, veulerie, je n'en finirai pas d'énoncer les galops du cheval sur la poitrine de la terre. Écoute, écoute-moi, toi, écoute. Je ne veux ni sourire ni saluer. Je ne veux pas d'épaule où m'appuyer, ni qu'on me parle. Je sais tout ce qu'on va me dire. Alors toi aussi, écoute, écoute. Lorsque le vacarme du monde nous submerge,
lorsque le vacarme du monde nous submerge,
on se tait.
On se tait.
On se terre au creux d'un arbre.
On se terre au creux d'un arbre.
On suit dans le ciel le vol ivre
d'une hirondelle. On suit dans le ciel le vol ivre d'une hirondelle.
On écoute se déplier.
On écoute se déplier la grande nappe blanche du silence. Du silence.
Un bref, très bref,
un bref instant. Très bref instant.
On imagine avoir conquis l'éternité.
Donc, texte extrait de La peur des autres, essai sur l'indésirabilité de Michel Agier que je recommande grandement. C'est un petit essai qui se lit très très facilement et qui est absolument éclairant sur la période d'aujourd'hui. L'abattu, l'État, la police et les étrangers, c'est assez clair, je pense, sur la situation à Calais. CRA, 115 propos d'hommes séquestrés.
Vous avez entendu des extraits de poésie d'Édouard Glissant, dont Chloé a cité le nom à un moment donné. Quelques extraits du Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Sinéon. Et le dernier que l'on a fait en canon, Bernard Mazot, La cendre des jours.